I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Louis. En cette période de fête, il y a celles et ceux qui vont continuer de bosser parce que leur activité ne peut pas s'arrêter. C'est le cas de la sage-femme de garde, de l'opérateur dans une centrale électrique ou de la journaliste qui présente les journaux à la radio. Et puis, il y a ceux qui ont la chance de partir en vacances, de se reposer et de déconnecter. Même si c'est seulement pour quelques jours, faire un break ne peut que vous faire du bien. Mais attention, il y a faire un break et faire un break. Il y a une grosse différence entre partir en vacances avec son ordi et son portable pro et faire une vraie coupure. Dans cet épisode, je vous explique comment déconnecter réellement de votre boulot et surtout pourquoi c'est si important. Pour ça, j'ai interrogé Caroline Sauvageol-Rialan. Elle a fondé un cabinet de conseil dans lequel elle milite auprès des entreprises pour la déconnexion dans les organisations de travail. Et elle est aussi l'autrice du livre « Infobésité, comprendre et maîtriser la déferlante d'informations » paru en 2013. Je suis Camille Maestrachi. Bienvenue dans Travail en cours. En général, les vacances de Noël ne sont pas les plus reposantes. Entre les repas de famille à droite à gauche, les déplacements chez les parents, les beaux-parents, les grands-parents, et puis la course aux cadeaux, la soirée du Nouvel An... Enfin bref, c'est pas toujours évident de prendre du temps pour soi et de se détendre. Pour autant, selon Caroline Sauvageol-Rialan, il faut absolument saisir cette opportunité pour déconnecter du travail.
Le fait de partir, c'est vraiment la bonne occasion pour essayer de réamorcer cette déconnexion personnelle. Et puis on va avoir des choses à faire, de la disponibilité par rapport à nos familles, des loisirs. Donc, c'est vraiment bien. Maintenant, je crois que l'enjeu majeur, il est bien sûr sur comment je me déconnecte pendant ma vie de tous les jours et habituelle. Et je pense que la première chose à faire intéressante, ce serait vraiment déjà de se dire « je déconnecte du vendredi soir au lundi matin ». Vraiment. Et pas le lundi matin à 7h du matin, quoi. Voilà, à s'autoriser à se dire « je vais aller consulter mes mails, mais seulement à partir de 8h30 ». Et oui, peut-être que je n'aurais pas vu certaines choses, mais je vais l'assumer. Et au lieu de me sentir coupable de ne pas avoir vu ou traité certaines choses, eh bien, je vais assumer le fait que je vais profiter de mon week-end parce que ça me fait du bien et que je reviendrai encore plus en forme et plus motivée le lundi matin.
En réalité, il ne s'agit pas seulement de revenir plus en forme le lundi. Déconnecter, c'est presque un enjeu de santé publique. Car à l'inverse, l'hyperconnexion peut avoir des effets très nocifs sur notre santé, sur nos relations et sur notre travail.
Les conséquences néfastes de l'hyperconnexion sont la charge mentale qui se transforme en fatigue mentale, le fait de ne pas réussir à se concentrer pour réaliser ses tâches, et encore une fois, toutes les tâches à valeur ajoutée, les tâches solides, on n'arrive pas à les faire. Ça, c'est aggravé par le fait que très souvent, les salariés disent « les tâches de fond, je les traite le soir ». Vous voyez, après la journée qui est consacrée aux réunions, aux mails, etc. Mais traiter les tâches de fond le soir, c'est une très très mauvaise option. Parce que le soir, c'est justement le moment où on a le moins de capacité de concentration. Donc concrètement, les effets de l'hyperconnexion, c'est qu'on devient moins productif, on devient moins innovant et on se rapproche de plus en plus du burn-out. On dégrade les relations avec ses relations professionnelles. Pourquoi ? Parce qu'il y a une montée de l'agressivité quand effectivement on est perpétuellement connecté. Et puis on dégrade évidemment sa vie personnelle. On s'épuise et on dégrade les relations avec ses proches quand effectivement les proches se rendent compte que on est perpétuellement absorbé par notre environnement professionnel et qu'on est incapable de consacrer un temps complet dédié exclusif aux préoccupations personnelles.
Évidemment, la crise du Covid et la généralisation du télétravail n'ont pas aidé. La frontière entre vie professionnelle et vie personnelle est de plus en plus poreuse, avec les conséquences que Caroline Sauvageol-Rialan vient d'expliquer. Alors pour reprendre la main, voici déjà trois conseils pratiques que vous pouvez appliquer dès maintenant si vous partez en vacances.
D'abord, prévenir son manager qu'on va couper, parce que comme ça, ça permettra de se déculpabiliser, hein, surtout si on le faisait pas avant. Parce que du coup, si on ne prévient pas, ça va être compliqué à gérer. Donc, on prévient son manager. Deuxièmement, si on a deux téléphones, eh ben, on va oublier son téléphone professionnel au bureau et on le retrouvera quand on reviendra le premier jour de retour au bureau. Et si, par contre, on a un seul téléphone professionnel et personnel, eh bien, on va supprimer sa messagerie professionnelle de manière à éviter toute sollicitation, toute interruption du professionnel. Depuis une dizaine d'années maintenant, quand j'interview des cadres en particulier, les cadres me disent « Mais Madame Infobésité, c'est vrai, je regarde mes mails, mais c'est juré, je réponds pas pendant le week-end ou pendant mes vacances. » Et je leur réponds toujours que la charge mentale, elle commence dès la consultation. On le sait bien, si on est à un dîner avec des amis et que on se lève pour aller fumer une cigarette dehors et qu'en même temps, on check ses mails et qu'on a un message d'un collègue un peu agressif, vous voyez, qui nous déplaît, on sait bien que ça va venir nous gêner, que ça va du coup perturber la soirée derrière qu'on a avec ses amis ou avec sa compagne ou son compagnon. Donc la charge mentale et la préoccupation professionnelle, elle commence dès la consultation. Donc, autorisez-vous non seulement à ne pas répondre, mais surtout à couper avec les sollicitations.
Ça, c'est déjà ce que vous pouvez faire à votre niveau. Mais le sujet de la déconnexion ne peut se traiter qu'à l'échelle des collaborateurs. C'est une responsabilité collective et organisationnelle des entreprises.
J'entends trop souvent, par exemple, des entreprises internationales dire « Bah nous, chez nous, la déconnexion, c'est impossible. » Mais j'ai envie de répondre, bah, le travail 365 jours sur 365, 24 heures sur 24, c'est impossible aussi. Donc, comment est-ce qu'on faisait pour travailler avant les technologies? Ces entreprises avaient aussi une activité internationale. Donc, l'activité de travail, elle se structure, elle s'organise. Il y a des choses qui sont possibles, vous voyez, pour voilà que les uns aient tels horaires et d'autres à un autre moment. Et on vit dans l'illusion que parce que les technologies nous rendent tous disponibles 24 heures sur 24, eh ben ça peut fonctionner. En fait, ça ne peut pas fonctionner. Déjà, par exemple, pour les salariés en télétravail, puisque maintenant on est quasiment tous au moins 2 jours par semaine en télétravail, eh bien, fixer des horaires pendant lesquels on s'autorise à se parler, voyez, et à travailler. C'est-à-dire fixer des horaires de travail et de disponibilité. Ne pas exiger de ses collaborateurs une disponibilité de 7h à 22h au nom du fait que peut-être ils vont être indisponibles entre 11h et midi. Mais au contraire, chercher à dire, voilà, quels sont les horaires qu'on se donne au niveau du service pour être disponible aux sollicitations, pour tenir nos réunions, et on va s'en tenir à ces horaires-là. Vous voyez, de manière à permettre à chacun de gérer sa vie personnelle. Donc ça, je pense que c'est très, très important. Il faut revenir aux horaires de travail classiques. Une deuxième chose, ce serait vraiment de faciliter le départ en vacances des équipes en l'organisant en amont. Donc, bah, qui va partir, à quel moment, qui va prendre le travail de l'autre pendant l'absence d'un tel, comment est-ce qu'on peut anticiper sur ce qui peut arriver pendant les vacances d'une personne et trouver le moyen de passer le dossier aux autres personnes.
Pour que vous ayez une idée des pratiques qui peuvent aider à mieux gérer votre absence, il y a par exemple cette initiative de l'entreprise Daimler, le constructeur automobile allemand.
En 2014, chez Daimler, ils ont mené une opération qui s'appelle Mail on Holiday. Et cette opération permettait à ceux qui étaient effectivement en vacances de se déconnecter totalement de leur mail. Donc le directeur de système d'information coupait la boîte mail. Donc vous, en vacances, c'est simple, du premier jour au dernier jour, vous avez zéro mail. Mais en plus de ça, et c'était assez fascinant et l'idée est géniale, les mails ne sont pas conservés dans la boîte mail. Et donc, quand vous revenez au bureau, vous n'avez pas, comme chaque 1er septembre, vous voyez, quand vous êtes parti 3 semaines, les 800 mails en absence. Vous avez zéro mail. Pourquoi ? Parce que quand quelqu'un vous écrit un mail, eh bien, il a un message qui lui signale non pas le message classique d'absence qui consiste à dire, comme aujourd'hui dans 80% des entreprises, je suis absente du 24 décembre au 2 janvier et je ne pourrai pas vous répondre pendant ces vacances, mais je traiterai votre message à mon retour. En fait, le message qui est automatique, qui va arriver dans la boîte mail de la personne qui vous a écrit, c'est « Je suis absent de telle date à telle date, je ne consulterai pas votre message, je vous invite à me le renvoyer à partir du 2 janvier, ou bien en cas d'urgence, à contacter telle ou telle personne. » Et donc là, vous comprenez bien qu'avec ce type de message, le système d'information peut détruire effectivement les messages qui sont arrivés. Donc vous reprenez le travail à zéro au lieu d'avoir 800 mails à traiter, dont en plus la moitié aura été traitée par d'autres en votre absence. Et puis, l'interlocuteur a la responsabilité de considérer qu'il fait son choix. Soit il contacte une autre personne en cas d'urgence, soit il attend votre retour.
Troisième et dernier conseil de Caroline Sauvageol-Rialan pour les entreprises, c'est tout ce qui tourne autour de l'opposabilité de l'information. En clair, il s'agit de mettre en place des outils informatiques pour que ceux qui partent en vacances puissent avoir toutes les informations qui leur manquent pour reprendre le travail, mais seulement une fois qu'ils sont rentrés de vacances.
Les comptes rendus de réunion qui sont faits justement de manière systématique pour les absents doivent être envoyés aux collaborateurs, non pas par la messagerie électronique, mais ils doivent être conservés dans un espace de documents partagés où chaque collaborateur s'engage à son retour de vacances à consulter les 1, 2, 3 comptes rendus de réunion auxquels il a été absent. Ça fait gagner du temps à tout le monde et ça permet à chacun de revenir et de se remettre au jus de manière efficace et plus rapide. Mais ça implique évidemment de faire un compte rendu de réunion. Pour partager sur une bonne pratique, je trouve chez Pôle emploi, ils ont décidé que pour tous les collaborateurs qui étaient au contact du public, à chaque retour de vacances, la première demi-journée de retour de vacances n'est pas au contact avec le public. Pourquoi ? Parce que naturellement, notamment les conseillers Pôle emploi, ça ne sert absolument à rien que le lundi matin à 9h, ils aient un entretien avec une personne alors qu'ils n'ont pas eu le temps de vérifier pendant la semaine précédente ou les 15 jours précédents si le dossier de cette personne avait ou non avancé. Donc ça les mettait en difficulté. Les chômeurs étaient eux-mêmes évidemment furieux parce que le rendez-vous était totalement inutile. Donc c'était pas du tout performant et productif. Donc effectivement, il vaut beaucoup mieux se laisser le temps de se remettre à jour de ces dossiers avant, voyez, d'avoir les rendez-vous avec ses interlocuteurs.
Ça vous a peut-être échappé, mais aujourd'hui, en France, pour vous dire à quel point c'est important, il existe carrément un droit à la déconnexion. Pour Caroline Sauvageol-Rialan, c'est un début, mais peut mieux faire.
Alors, le droit à la déconnexion, il est issu de la loi El Khomri de 2016. Il est mis en œuvre en France depuis le 1er janvier 2017 pour toutes les entreprises de plus de 50 salariés, des entreprises du secteur privé uniquement. Et il prévoit la possibilité, en fait, pour les salariés de n'avoir aucun contact avec leur activité professionnelle en dehors de leurs horaires de travail classiques. Donc concrètement, il rend possible le fait de ne pas répondre à ces messages, tout type de messages évidemment, mail, messagerie instantanée, appel téléphonique, en dehors des heures de travail. On parle de nouveaux droits à la déconnexion, ce qui est assez fascinant parce qu'en fait, il n'y a pas de nouveaux droits à la déconnexion. Le droit à la déconnexion, c'est juste la réaffirmation du fait qu'on a le droit de ne pas travailler quand on ne travaille pas. Et donc, effectivement, la liberté de ne pas travailler en dehors de nos horaires de travail. C'est plutôt la réaffirmation du code du travail et du fait qu'on a le droit d'avoir une activité personnelle en dehors des heures de sommeil, vous voyez, après le travail.
Bon, je crois que vous avez saisi le message. Profitez de vos vacances, pour ceux qui en ont, pour couper totalement du travail. C'est non seulement votre droit, mais c'est même une nécessité si vous voulez rester en bonne santé et bien commencer l'année 2022 d'un point de vue professionnel et personnel. Vous venez d'écouter Travail en cours, un podcast de Louis Média. Si vous souhaitez nous partager votre histoire par rapport au travail, vous pouvez nous écrire à hello@louismedia.com. Louise Emerlé est chargée de production. Marine Kéméré était au montage et à la réalisation. La musique est de Jean Thévenin et le mix a été fait par le studio La Fugitive. Marion Girard est responsable de production et Maureen Wilson, responsable éditoriale. Mélissa Bounois est à la direction des productions et Charlotte Pudlowski à la direction éditoriale. Vous pouvez nous retrouver là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts, Deezer, iTunes, Spotify, SoundCloud. Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires et des étoiles. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et si vous aimez ce podcast, découvrez les autres podcasts de Louis, Émotion, Le Book Club, Injustice, Passage. À bientôt.
Bonjour, je suis Agathe Le Taillandier et on voulait vous parler de Pépite, le nouveau podcast culturel de Louis Média.
Et moi, je suis Sébastien Thème et avec Agathe Le Taillandier, chaque lundi, on va chez des artistes qui nous touchent et que l'on a envie de vous faire découvrir.
On veut explorer leur univers, leur sensibilité et raconter le temps d'une conversation intime, leurs histoires.
Pépite, c'est le nouveau rendez-vous culturel de Louis Média où l'on rencontre celles et ceux qui font la culture de demain. Et c'est tous les lundis.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.